7 minutes, 7 piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme ça noir. Il faudra que ton angoisse pareil si ça passe. Voilà l'intraveineux. Ta solution à cœur. C'est ça la médecine. Je veux la guillotine. C'est ça la médecine. Je veux la guillotine. C'est ça la médecine. Je veux la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors, Radio Libertaire, on peut soutenir Radio Libertaire en allant sur le site radio-libertaire.org ou .net et en trouvant le bon de souscription. Voilà. On peut aussi se procurer la carte d'auditeur, toujours disponible, 20 € à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République, ou par correspondance à Radio Libertaire, à la même adresse, chèque à l'ordre de DMC. Et voilà, et on peut ici nous appeler pendant les plages musicales. Alors aujourd'hui, au sommaire de l'émission, toujours un peu ce patchwork de diverses choses relatives, bien sûr, à la critique de la psychiatrie. D'abord, on va revenir sur les grèves qui se sont déroulées la semaine dernière, avec deux brèves qui en parlent. En deux endroits, à Nantes et à Sète. Et pour commencer, en Vendée, expertise judiciaire après le suicide d'un patient dans un hôpital psychiatrique. C'est dans 20 minutes, un article du 30 novembre 2022. Le jeune homme de 20 ans a été retrouvé, alors entre guillemets, pendu à la poignée de la porte de la salle de bain, à l'hôpital Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon. L'hôpital psychiatrique Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon, en Vendée, a-t-il une part de responsabilité dans le suicide d'un jeune patient de 20 ans ? C'est pour le savoir que le tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise judiciaire, selon le journal du pays... Lyonnais, retrouvé pendu à une poignée de porte. Le défunt, hospitalisé à sa demande, le 29 février 2020, selon les propos de la famille relayés par l'hebdomadaire, avait été retrouvé deux jours plus tard pendu à la poignée de la porte de la salle de bain. Il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif et avait des idées suicidaires. Ce sont ses proches qui ont demandé une expertise en avril 2022 pour mieux comprendre ce qui est arrivé. Une demande acceptée par le juge des référés. Un expert, donc, a été nommé et devra rendre ses conclusions d'ici le 31 mars 2023. Il devra notamment réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis par l'établissement hospitalier. Fin de la brève. Est-ce que c'est pas cet hôpital psychiatrique qui avait été visité par la contrôleur général des lieux de privation de liberté et qui s'était fait déjà remonter les bretelles à cause de traitements infligés aux patients qui n'étaient pas dans le respect de leurs droits ? Point d'interrogation. Le personnel psychiatrique Saint-Jacques de Nantes en grève. C'est une info de France TV Info du 30 novembre aussi. Là oui, c'est donc la vague de grève qu'il y a eu en France des personnels hospitaliers des hôpitaux psychiatriques la semaine dernière. Le personnel de santé psychiatrique nantais a répondu ce mardi 29 novembre à l'appel national de 4 syndicats. En psychiatrie, ce qui est important, c'est la présence humaine pour pouvoir être réellement à l'écoute. Aujourd'hui, tous les grévistes présents dénoncent justement le manque de temps à consacrer aux soins. Ils sont une soixantaine de soignants de Nantes et d'ailleurs à se retrouver devant le parvis de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes pour alerter sur l'état des services de psychiatrie. Face à la fermeture de lits dans la région, le CHU Nantes accueille les patients en psychiatrie des autres départements de la région. Une dégradation des soins faute de temps. On se retrouve avec des patients qui viennent de loin, c'est compliqué pour les familles et pour nous, on ne les connaît pas, explique Thierry Kress, représentant sud du CHU de Nantes. On est là, mais on n'est pas avec eux et ça, c'est insupportable. C'est le cri du cœur de Béatrice Perron Soubra, infirmière psychiatrique depuis plus de 30 ans à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes et élue du personnel CGT du CHU de Nantes. Elle dénonce la prise de distance avec ses patients faute de temps. On répond aux demandes de nos patients à la va-vite dans le couloir. On est phagocyté par tout ce qui est administratif, informatique. À courir aussi après le matériel comme les médicaments, les compresses, mais aussi des choses aussi élémentaires que des couvertures. Il faut savoir que ce qui compte en psychiatrie, c'est de retrouver un sommeil réparateur. Si les patients ont froid, ils ne peuvent pas dormir malgré leur traitement, donc ça retarde leur rétablissement psychique. Béatrice Perron Soubra, donc... Des patients de toute la région. Elle aussi dresse le même constat d'afflux de patients venus de l'ensemble des pays de la Loire. À Nantes, on accueille les patients de toute la région, du Mans, de La Roche-sur-Yon, de Saint-Nazaire, d'Angers par exemple, souligne l'infirmière. Comme nous avons un nombre de lits fixe, on ne peut pas le multiplier. Cet accueil se fait donc au détriment des patients de l'agglomération, ajoute-t-elle. Il y a une explication administrative à cette surcharge sanitaire, selon Thierry Kress du syndicat Sud CHU de Nantes. L'agence régionale de santé a demandé à la direction du CHU de Nantes de prendre en charge les patients qui ne peuvent pas être pris en charge par d'autres hôpitaux de la région comme la Sarthe et la Mayenne, assure Thierry Kress. Comme au niveau national, les revendications du personnel nantais vont principalement à ce que les postes pourvus soient remplacés ainsi qu'à l'augmentation des effectifs. Les soignants parfois démotivés. Cet afflux de travail démotive le personnel soignant, même passionné par son travail. Là, j'ouvre une parenthèse, la passion d'un infirmier pour son travail, d'un infirmier psychiatrique pour son travail, doit être à peu près la même que la passion d'un maton pour son travail dans une prison. Je ferme la parenthèse. Moi, je n'ai pas le sentiment parfois de faire du bon travail. Ce qui fait que ça vient atteindre mes valeurs professionnelles, c'est parfois ce qui fait que ça me déprime de venir travailler alors que j'adore ce que je fais. Donc, une infirmière, Béatrice Perron Soubra, infirmière psychiatrique depuis plus de 30 ans. L'hôpital Saint-Jacques compte 289 lits en secteur psychiatrique. Les manifestants alertent aussi sur la présence de patients mineurs au milieu des adultes, toujours en raison du manque de lits suffisants. Dans le secteur de la pédopsychiatrie, on compte en Loire-Atlantique 6,9 lits en moyenne pour 100 000 habitants contre 16,5 lits en moyenne pour 100 000 habitants au niveau national. Voilà, c'est la fin de cet article de France Info TV du 30 novembre 2022. Un autre article du 29 novembre 2022 de Midi Libre. Le secteur psychiatrique de l'hôpital de Sète en grève. Le personnel du secteur psychiatrique de Sète lancera une journée de mobilisation ce mardi 29 novembre. Ce mardi 29 novembre, le syndicat CGT des hôpitaux du bassin de Thau lance une journée de grève et de mobilisation dans le secteur psychiatrique. Un rassemblement est prévu devant l'hôpital de Sète à 11h. Le personnel se mobilisera pour obtenir davantage de moyens humains et matériels, la réouverture des lits, le développement des structures ambulatoires, mais également la création de plusieurs postes et des formations spécifiques financées par l'État. Au travers d'un communiqué, le syndicat déclare « Le ministère de la Santé et de la Prévention n'entend pas la voix des patients ni celle des professionnels de la psychiatrie et dénonce avant tout une pénurie de professionnels et de places, ce qui conduit l'hôpital à accueillir des patients dans des conditions indignes, voire à leur refuser les soins. les membres du syndicat s'estiment mal formés, mal payés et mal considérés, ce qui entraîne un tri des patients. Pour remédier à cela, le syndicat demande un financement à la hauteur des besoins de la population pour des soins gratuits accessibles à tous ainsi que du personnel formé pour accueillir la souffrance psychique et soigner chaque patient. Un article signé Paul de Roux. Et il y a aussi Montfavet, donc un article de France Bleu, le mardi 29 novembre 2022, un article de Alain Bossard. Notre système de santé s'effondre. Grève des soignants de l'hôpital psychiatrique de Montfavet ce mardi. Donc mardi 29 novembre, hein, c'était il y a 8 jours. Les signants, alors les soignants de psychiatrie sont appelés à manifester partout en France ce mardi. À l'hôpital de Montfavet, près d'Avignon, ils dénoncent une perte de sens de leur travail. Les soignants dénoncent une situation alarmante de la psychiatrie publique. Ces professionnels des hôpitaux psychiatriques sont appelés à une grande journée de grève ce mardi partout en France. Un rassemblement est prévu à Paris devant le ministère de la Santé à 11h. Et en Vaucluse, les soignants de l'hôpital psychiatrique de Montfavet, près d'Avignon, se retrouvent à partir de 12h30 devant l'établissement. Ils dénoncent à la fois le manque de moyens, de médecins, d'infirmières, de lits et la souffrance des malades qui s'aggrave depuis le début de l'épidémie de Covid. On perd le sens de notre travail, on n'est plus forcément dans le soin, résume Claire Moreno, infirmière psy à l'hôpital de Montfavet et représentante de la CGT. On n'arrive plus à être auprès des patients parce qu'on est surchargé devant des écrans d'ordinateur. Cette soignante parle même d'un délitement de l'ensemble du système de santé en France. On est sur un effondrement de notre système de santé, une casse du service public de façon générale. Il nous faut vraiment des moyens, implore-t-elle. Et cela passe notamment par une hausse générale des salaires dans l'hôpital public. Dans les années 1980, une infirmière touchait 1,8 fois le SMIC. Aujourd'hui, on en est à 1,2 fois le SMIC. Certes, il y a eu le Ségur de la santé, mais c'est vraiment insuffisant et surtout ce qui nous donne d'un côté, ce qu'ils nous ont donné d'un côté, ils nous l'ont déjà enlevé de l'autre. Voilà, c'était un peu mal rédigé. Eh bien voilà, donc un système de santé psychiatrique qui s'effondre et donc les infirmiers surchargés devant les écrans d'ordinateur, une distanciation donc toujours plus grande entre soignants et patients. Est-ce que ça découle d'une volonté politique? Voilà, je me pose la question. Bien, on va faire une pause en écoutant une chanson. Une chanson des Pompons Sauvages.
Avec toi, petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi.
Des chemins d'infortune envers et contre tout, les cerveaux résonnant. Dans Dans ce bordel exubérant, j'accueille notre déséquilibre, ma chérie l'invisible, ma chérie l'imprévisible. Petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi. Petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi. Petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi. Petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio libre de la Fédération Anarchiste, c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et nous enchaînons avec un appel. Le relais d'une lettre du collectif de Lavender Forever. Aurélien est un homme trans de 21 ans. Enfermé en défense sociale depuis le mois de février 2022 à Mons, en Belgique. Alors j'ouvre une parenthèse, un établissement de défense sociale en Belgique, c'est quelque chose qui... l'équivalent en France, c'est le, on va dire l'hôpital-prison de Château-Thierry. Voilà, c'est à la fois un hôpital et une prison. Mais pas dans le... pas sous la forme UHSA comme on connaît en France depuis une décennie, mais une ancienne formule quoi de d'établissement mixte. Voilà. Donc récemment, la direction de cet établissement lui a retiré la possibilité d'accéder à une torsoplastie qui lui est vitale. À sa demande, nous rapportons au mieux sa situation actuelle et appelons à relayer cette lettre au maximum. Aurélien est un homme trans de 21 ans, enfermé en défense sociale depuis... alors là oui, c'est, la phrase est répétée. Dans l'unité de sécurité de protection sociale Claudel au CHU Chêne au Haye à Mons. Entre l'internement psychiatrique et la peine de prison. Dans nos termes, la défense sociale serait l'annexe pénitentiaire d'un hôpital psychiatrique. L'institution est dirigée par un chef psychiatre dont la mission est d'assurer le rôle sécuritaire de l'établissement aux dépens d'une réelle logique de soins. Les plaintes pour maltraitance, entre autres médicales, sont d'ailleurs très nombreuses. C'est dans ce contexte d'enfermement qu'Aurélien, sous hormones depuis 3 ans, souhaite poursuivre sa transition et avoir accès à sa torsoplastie, qu'il considère comme étant aussi urgente que vitale. L'opération, qui avait été déjà accueillie positivement par des professionnels de la santé, avant son internement incarcération, vient de lui être refusée par le chef directeur psychiatre sous motif de mauvais comportement et accessoirement parce qu'il aurait déjà eu le droit d'aller à l'hôpital cette année après s'être cassé le poignet. Sa présence dans un établissement carcéral, impliquant déjà toute une série de mesures punitives, telles que la mise à l'isolement pour n'en citer qu'une, nous refusons que l'interdiction d'une torsoplastie s'ajoute à cette liste de traitements. C'est pourquoi nous relayons la voix d'Aurélien qui se sent à bout, incompris, de plus en plus rejeté, puni injustement, isolé et abandonné, et prêt à tout pour obtenir son opération cet hiver. Cette interdiction aurait évidemment une incidence grave sur sa santé mentale et physique et donc sur le reste de son parcours d'enfermement. Sa libération étant conditionnée par une amélioration notable de son état de santé psychique et par la mise en place d'un projet de vie. Alors voilà, ça c'est un message. Si vous avez des idées ou des pistes de solutions pour Aurélien, si vous êtes un professionnel ou une professionnelle du soin prêt à témoigner en faveur de son opération, si vous vous sentez compétent ou compétente pour aider d'un point de vue juridique, le collectif Lavender, en soutien aux personnes LGBTQIA+, en situation d'enfermement. Adresse de contact, Lavender Forever, LAVENDER. @riseup.net.
connais. Rarement eu la chance pour partenaire. Je finirai sûrement pas entouré de centenaires. Certains partiront trop pour un télé mineur. Les pleurs à la naissance ne sont qu'un préliminaire. Et si nos vies sont vides de sens, c'est que nos désirs se résument à un putain de bidon d'essence. Une allumette, une étincelle, et que la France brûle comme à Vincennes. C'est toujours une histoire d'émeutés de classe, d'animal blessé, d'encristé, de guerre lasse, d'orgueil baissé. Reste à ta place ici, ce qu'on nous impose, ça pue le système biaisé. À court terme, tous parqués au jetard, je suis pas close trop par hasard. Et si on s'est marqué au corps, c'est pour oublier que nos vies leur appartiennent. Rien ne sert de mentir sur le score, leur putain de peine ne cesse d'augmenter. Ce monde nous fait malade ou criminel, ils nous enferment ou infirment. Nous on avance comme sur un fil. Incarcéré potentiel, les pieds sanglés dans ce putain de sol. 29 berges et si peu de rêves, des magouilles, des petits bises, à mesure que l'ennui me crève. Mon horizon, ça me nuise, il paraît. Notre mode de vie les importune, c'est sûr, au bout du chemin, y'aura pas la fortune. On vit à l'ombre de leur soleil vert, sous les spots de la lune, dans ce putain d'époque. Tout est stérile et sous contrôle, ok. Dis-leur bien qu'on sait ce qui se trame, que la réponse sera à la hauteur du drame. Trop de larmes sous les capuches, d'eau ça les verser. Et si on noie la colère au fond d'un verre, c'est pour pas péter les plombs, voir la violence percée. Ma jeunesse insouciante est morte bien avant terme. Tristesse et cicatrices dissimulées sous l'épiderme. Tous les jours, l'impression d'éviter le pire. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'or dans les poches, plus de youvres, moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'or dans les poches, plus de youvres, moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches.
Moi, je garde les ronces pour carburant, je reste du côté de ceux qu'on s'y peut à perdre. Des incendiaires qu'on incarcère et qui font pas les couvertures de leurs journaux de merde. Des vrais encristés de ce qu'ils osent appeler une crise. Des sacrifiés sur l'autel de leur putain d'escroquerie. Pour une enfleur qui s'auto-supprime à Wall Street, dis-moi combien des nôtres qui s'accrochent à la poutre sans se rater. Où sont pendant de sales paradis, la déprime pour seul partenaire. En haut lieu, bah ça se plaint, mais rassure-toi, ça croque encore et ça restructure. En bas, je t'apprends rien, ça canne un petit feu. Appelle ça caricature, mais putain, ça crève les yeux. Alors c'est ça, chacun sa gamme, chacun sa cage, sa petite cachette, son élixir. Comme ça qu'on baise à l'usure, c'est pas la guerre soi-disant. Alors pourquoi les cachots craquent, pourquoi nos vies ont ce goût de chiotte, hein. La peste des flicards ne presse pas la gâchette. Moi je garde, tenace mes fantasmes, cramer le buisson qui camoufle ta forêt de classe. Arracher des bouts de vrai, des bribes de rêve dans la matrice avant la tombe, briser leur glace en teint. Pour ça mon tour de combattant, j'ai pas le goût du sacrifice moi. Ni bourreau ni martyr et tout l'inverse d'un artiste. Et me dis pas que je suis pas à plaindre, je la connais bien, ta vieille rengaine, du genre qui te paralyse. De la zone grise à la zone libre, y'a qu'un pas en pied. Ce qui te sépare du précipice, de ceux qu'on dépasse pas, seul mais à plein.
Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de youvres, moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de yeux, moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches.
La prison tue, alors c'est
crève la tôle. Le taf nous tue, alors c'est crève la tôle.
L'HP nous tue, alors c'est
crève la tôle. La prison tue, alors c'est crève. La tôle, crève, la tôle, crève, la tôle.
C'était Singe des rues, et nous poursuivons avec un autre appel, projet d'œuvre collective de témoignage sur l'hôpital psychiatrique. Alors c'est trouvé sur la liste de diffusion des aliénés. Donc c'est une liste qui avait été créée en 2011, je crois. Lors des rencontres résister à la psychiatrie en Ariège, voilà. Et cette liste existe toujours et on y trouve ce genre de message. Bonjour à tous. Pardon. Je pense que si vous tous et toutes, vous êtes dans cette liste de diffusion, c'est que vous avez tous et toutes été confrontés d'une manière ou d'une autre au système psychiatrique. La question de l'hospitalisation pour ceux ou celles qui ont été confrontés est une question sensible et réveille des souvenirs parfois douloureux ou traumatisants. Moi, personnellement, j'ai été hospitalisé à maintes reprises et en cumulé, j'ai dû passer presque 2 années de ma vie en hôpital psychiatrique. Le seul souvenir d'hospitalisation qui ne fut pas traumatisant, c'était en Italie et pourtant c'était une hospitalisation imposée dans le cadre d'un accès maniaque caractérisé. En clair, j'étais grave perché. Je pense que nous, les usagers de la psychiatrie, il est temps que nous prenions la parole pour témoigner de ce qui se passe en hôpital psychiatrique. L'idée serait de faire un recueil de quelques tranches de vie, de ce que c'est que de vivre pour quelque temps dans un hôpital psychiatrique, de nos relations avec le monde des soignants en CMP, centre médico-psychologique. Bref, prenons la parole, car personne ne nous la donnera tant que nous resterons juste des objets d'études réduits au rang de malades mentales par les psychiatres. Tant que ce seront des journalistes extérieurs qui, dans une envie de sensationnalisme, feront des reportages dans les hôpitaux psychiatriques, l'hôpital psychiatrique sera fantasmé par l'extérieur. Que nous le voulions ou non, nous les ex-psychiatrisés, avons eu comme raison cet étrange lieu qu'est l'hôpital psychiatrique. Avons eu comme maison cet étrange lieu qu'est l'hôpital psychiatrique. Cette maison, si on veut un jour en redéfinir les plans, le fonctionnement, les objectifs, il faut la décrire, la rendre vivante pour ceux qui ne la connaissent pas. Il ne s'agit pas de préparer un brûlot à charge ou un plaidoyer, juste de témoigner de ce que l'on a vécu à l'intérieur dans cette famille de fous qu'est l'hôpital psychiatrique. Alors, c'est sûr, pour vendre et médiatiser le bouquin, il faut de l'humour, des émotions, de l'amour, du sexe, tout est bon à prendre. Ainsi, si quelqu'un veut témoigner des formidables ateliers de tantra qui se sont développés dans certains hôpitaux publics, je trouverais ça passionnant. Si certains tiennent à leurs étiquettes de malades mentaux, ça les regarde, mais moi, qui ai bien fréquenté les hôpitaux psychiatriques, je n'ai vu aucun être malsain, malade, j'ai vu des êtres en souffrance psychique qui manifestaient leur souffrance par un trouble. Mais j'ai surtout vu des êtres qui étaient riches d'une très grande sensibilité pour la plupart et derrière leur comportement masquait une grande souffrance. Cette sensibilité est notre force pour nous exprimer, nos mots sont des armes pour exprimer nos mots, MAUX, notre sincérité et tout ce que nous avons. Ce que je propose, c'est une œuvre collective publique qui trouvera sa force d'expression dans l'art, dans ce récit de témoignage individuel, un témoignage commun de ce qu'est l'hôpital. L'ensemble des récits écrits étant amené à vivre de manière autonome sous la forme d'un livre de témoignage, audio, d'une pièce de théâtre, peu importe, c'est un récit collectif à partir de récits individuels. Bien sûr, l'usage des témoignages se fera dans le respect et le consentement de ceux qui témoignent. Oui. Nos histoires de fous à l'hôpital ont de la valeur, notre folie, tout comme notre désespoir, est un chant de poésie. Tous les ex-psychiatrisés sont légitimes pour témoigner de l'hôpital psychiatrique et le seront toujours plus que de vulgaires journalistes. C'est la sincérité qui compte bien plus qu'un soi-disant talent à aligner les mots. C'est la diversité dans la façon de s'exprimer et dans ce que l'on raconte qui compte. Parler du néant du vide que représente une journée banale à l'hôpital, c'est déjà faire vivre l'hôpital psychiatrique à ceux qui ne le connaissent pas. Tout le monde a quelque chose à dire, à évacuer, à partager. Ce recueil, cette œuvre artistique, c'est juste une manière, pour une fois, d'être entendu. J'invite vraiment les plus timides à prendre un pseudo pour témoigner. D'ailleurs, j'ai moi-même témoigné pour une association qui fait des entretiens audio derrière un pseudo. Je pense que la manière la plus simple et la plus organique de travailler ensemble sur un tel projet est de créer un disque dur en ligne où chacun serait amené à déposer son matériel de témoignage récit, écrit, audio, photo, peinture, en laissant son contact pour discuter d'une utilisation ultérieure de ce matériel pour une œuvre d'art collective. J'arrête ici ce mail, j'attends avec impatience vos réactions, votre idée et vos collaborations pour que cette idée qui est individuelle actuellement devienne collective. Voilà, alors c'est un... un texte de Samuel Rouge. Eh bien, en même temps, c'est une bonne idée. On pourrait très bien nous-mêmes faire cet appel de témoignage, de cet appel à témoignage pour l'émission L'Entonnoir, de la même façon, sans... sans fioriture, sans effet de style, mais juste le récit de l'expérience. Donc voilà. C'est une idée. Voilà. Cette idée, on la relaie. Et qu'est-ce que on peut dire maintenant? Eh bien, on peut évoquer en profondeur un peu une pourquoi on critique la psychiatrie, en fait. Pourquoi cette critique de la psychiatrie? Pourquoi cette critique d'une institution qui existe depuis longtemps, puis qui est censée soigner les gens, et qui... voilà, qui est une institution publique. Eh bien, il y a que cette psychiatrie exerce un pouvoir sur nous tous et nous toutes, un pouvoir qui normalise les comportements, qui juge et normalise les comportements, par extension influence la société tout entière. Et je voulais vous lire un article de Zinzinzine, trouvé sur Zinzinzine, le site. Un article de Bruce Levin, qui est psychologue et qui est tiré lui-même, dont le texte original est tiré du site madeinamerica.com et qui est traduit ici par Zinzinzine en français. Un article du 6 janvier 2015 est publié sur le site Zinzinzine le 7 septembre 2015. Cet article s'intitule « Trois raisons inquiétantes qui permettent à la psychiatrie de conserver son pouvoir malgré sa perte de crédibilité scientifique ». Jusqu'où faut-il aller ici pour perdre un tant soit peu de crédibilité? Demande le reporter Jesse Eisinger dans un article de 2012 au sujet des plus hauts et hautes dirigeants et dirigeantes de Wall Street qui ont créé la crise financière, mais qui sont restés les plus hauts dirigeants et dirigeantes de Wall Street, continuant de siéger au conseil d'administration d'entreprises privées ou à but non lucratif, servant de régulateurs et de régulatrices, et dont les opinions restent convoitées par les grands éditorialistes et les talk-shows. Wall Street n'est pas le seul endroit où quelqu'un peut avoir complètement tort tout en gardant une puissante influence. Les influents psychiatres, faiseurs d'opinions, et les grandes institutions psychiatriques, selon leurs propres aveux récents, se sont trompées à plusieurs reprises concernant la validité du modèle maladie-trouble, les causes biochimiques et les traitements médicamenteux. De plus, dans plusieurs cas, leur corruption par les industries pharmaceutiques a été découverte. Pour autant, ils continuent d'être pris au sérieux par les médias. Pendant que le soutien financier de l'industrie pharmaceutique est une des raisons pour laquelle la psychiatrie parvient à conserver son influence, ce n'est pas la seule raison. De façon plus insidieuse, la psychiatrie conserve son influence en raison des besoins de la structure de pouvoir qui, plus largement, nous gouverne. Et peut-être plus troublant encore, la psychiatrie conserve son influence à cause de nous et de l'augmentation de nos peurs qui ont conduit à des besoins accrus en coercition. Mais avant d'aborder ces trois raisons, un peu de documentation sur la perte de crédibilité scientifique de la psychiatrie dans plusieurs domaines critiques. La perte de crédibilité scientifique de la psychiatrie. L'invalidité du DSM. En 2013, la Bible diagnostique de l'Association américaine de psychiatrie, le DSM, a vivement été critiquée par les piliers de l'institution psychiatrique. Thomas Insel, directeur du National Institute of Mental Health, NIMH, la plus haute autorité gouvernementale en santé mentale des États-Unis, a infligé un sévère blâme au DSM en annonçant que les catégories diagnostiques du DSM manquaient de validité et en déclarant que la NIMH réorientera ses recherches en s'éloignant des catégories du DSM. En 2013 également, Alan Frances, l'ancien président du groupe de travail en charge du DSM-4, publie son livre « Saving Normal, an Insider's Revolt Against Out-of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma and the Medicalization of Ordinary Life ». L'industrie pharmaceutique, le DSM-5, l'industrie pharmaceutique et la médicalisation de la vie ordinaire. La théorie du déséquilibre biochimique discréditée. Ce fut une grande surprise pour la journaliste Alix Spiegel en 2012 de découvrir que l'institution psychiatrique affirme maintenant avoir toujours su que la théorie du déséquilibre biochimique dans la dépression était fausse. Ronald Pies, rédacteur en chef émérite du Psychiatric Times, a déclaré en 2011 « En vérité, la notion de déséquilibre chimique a toujours été une sorte de légende urbaine, jamais une théorie sérieusement défendue par des psychiatres bien informés. » Insel, le directeur du NIMH, avait déjà dit au Newsweek en 2007 que la dépression n'est pas due à des niveaux bas de neurotransmetteurs tels que la sérotonine. Cependant, la psychiatrie n'a pas fait de tentative sérieuse pour faire savoir que la recherche avait rejeté cette théorie du déséquilibre chimique, une théorie efficacement utilisée dans les publicités pour vendre des antidépresseurs censés corriger ce déséquilibre. Un déséquilibre que la psychiatrie savait ne pas exister. Repenser l'efficacité des médicaments antipsychotiques et antidépresseurs. En 2013, le directeur du NIMH, Insel, a aussi annoncé que le traitement de base pour les personnes diagnostiquées avec une schizophrénie ou d'autres psychoses n'a pas été bénéfique pour de nombreuses personnes et qu'il doit changer de façon à mieux refléter la diversité de cette population. Citant des études sur le long terme, Insel en a conclu que sur le long terme, beaucoup de personnes ayant été diagnostiquées psychotiques s'en sortent en réalité mieux sans médicaments antipsychotiques. Concernant les antidépresseurs, l'émission 60 minutes en 2012 a rapporté une information que les chercheurs qui travaillent sur ces médicaments connaissent depuis longtemps. Les placebos sont presque aussi bénéfiques que les antidépresseurs, même dans les études biaisées des entreprises pharmaceutiques en faveur des antidépresseurs. Le reportage de 60 minutes s'est focalisé sur un chercheur en psychologie, Irvin Kirsch, qui a utilisé la loi pour la liberté d'information afin d'effectuer des recherches sur les essais cliniques d'entreprises pharmaceutiques publiées et non publiées concernant les données de 6944 patients provenant des tests de la FDA, Agence américaine des produits alimentaires et médicaments, Food and Drug Association, donc des tests de FDA pour les 6 antidépresseurs les plus populaires, Prozac, Pavil, Zoloft, Effexor, Celexa et Cerzone. les traitements psychiatriques peuvent augmenter le risque de suicide. La FDA, Food and Drug Administration, malgré les protestations de l'institution psychiatrique, a émis des avertissements sur les emballages des médicaments concernant la probabilité d'augmentation du risque de suicide pour les patients en dessous de 25 ans qui utilisent des antidépresseurs. En 2014, Alternet rapporte « La recherche semble montrer que les interventions psychiatriques telles que l'admission dans un établissement de santé mentale pourraient augmenter le risque de suicide », citant une étude de l'Université de Copenhague qui comparait les Danois et Danoises qui s'étaient suicidés à une population témoin entre les années 1996 et 2009. Les chercheurs ont constaté que prendre des médicaments psychotropes au cours d'une année antérieure était lié à une augmentation du suicide de 5,8 fois. La fréquentation d'un établissement psychiatrique en ambulatoire était associée avec une augmentation de 8,2 fois. Être admis en chambre d'accueil d'urgence psychiatrique était associé avec une augmentation de 8,2 fois des suicides. Et l'admission dans un hôpital psychiatrique était liée à une augmentation de 44,3 fois le taux de suicide. Bien que la corrélation en elle-même ne signifie pas nécessairement lien de causalité, un éditorial du même journal dans lequel l'article a été publié soulignait que les associations détaillées dans cette étude indiquent une bonne probabilité de relation causale. Parmi les raisons pour lesquelles un traitement psychiatrique pourrait bien augmenter le risque de suicide, outre les effets secondaires des médicaments, il y a la stigmatisation et le trauma dû au traitement, comme le déclare l'éditorialiste. Il est tout à fait plausible que la stigmatisation et le trauma inhérents au traitement psychiatrique, particulièrement celui qui est contraint, puissent, chez des individus déjà vulnérables, contribuer à certains suicides. Créer la stigmatisation avec les théories de l'anormalie biochimique. Dans l'institution psychiatrique, il a été longtemps proclamé que considérer la maladie mentale comme une maladie du cerveau ou une anomalie biochimique conduirait à moins de stigmatisation. Mais la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, FCAS, dans une étude des recherches intitulée Mythe, repenser la maladie mentale comme une maladie du cerveau réduirait la stigmatisation, a rapporté en 2012. Malgré de bonnes intentions, les faits montrent qu'en réalité, les campagnes anti-stigmatisation soulignant la nature biologique de la maladie mentale n'ont pas été efficaces et ont souvent empiré le problème. Fin de citation. L'exemple en est donné par une étude de 2010 dans Psychiatry Research qui rapporte que pour le grand public, l'acceptation du modèle biogénétique de la maladie mentale était associée avec un désir de plus grande distance sociale avec les malades mentaux. L'étude de l'AFCAS affirme « Les faits nous montrent qu'alors que le public fera peut-être moins de reproches à des individus pour leur maladie biologiquement déterminée, l'idée même que leurs actions puissent être au-delà de leur contrôle conscient » peut créer la peur de leur imprédictibilité et donc la perception que les malades mentaux sont dangereuses et dangereux, ce qui conduit à l'évitement. La corruption de la psychiatrie par l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique finance lourdement les départements universitaires de psychiatrie, sponsorise des conférences et la formation continue des psychiatres, fait de la publicité dans leurs revues professionnelles et paye les cliniciens et les chercheurs de premier plan pour être porte-parole et consultants. J'ai décrit, donc écrit l'auteur, dans Surviving America's Depression Epidemic en 2007 et mis à jour dans Truth Out en 2012, comment en pratique, chaque manière dont le public et les médecins reçoivent de l'information sur la santé mentale a été corrompue par l'argent des entreprises pharmaceutiques. En 2008, les enquêtes du Congrès sur la psychiatrie ont révélé que les grandes institutions psychiatriques, comme l'Association américaine de psychiatrie et plusieurs psychiatres leaders d'opinion, y compris le psychiatre d'Harvard Joseph Biderman, étaient corrompues par les entreprises pharmaceutiques, créant des conflits d'intérêts évidents et endommageant un peu plus la crédibilité de la psychiatrie. Le New York Times a rapporté ce qui suit concernant Biderman. Un pédopsychiatre de Harvard, à la renommée mondiale, dont le travail a contribué à faire exploser l'utilisation de puissants antipsychotiques chez les enfants, a gagné au moins 1,6 million en frais de consultation de la part des fabricants de médicaments de 2000 à 2007. De plus, le Times a rapporté plus tard que Biderman avait tenu au courant Johnson & Johnson de sa position de recherche, de sa proposition de recherche sur leurs médicaments antipsychotiques, le Risperdal, et ce qui tournerait en la faveur de Johnson & Johnson, avant de livrer la marchandise. Biderman était seulement un cas parmi d'autres, plusieurs autres psychiatres influents concernés par l'enquête du Congrès. Le DSM, manuel de diagnostic, est publié par l'Association américaine de psychiatrie, AAP, et selon le journal PLOS Medicine, 69% des membres du groupe de travail du DSM rapportent avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique. Pourquoi la psychiatrie conserve du pouvoir malgré sa perte de crédibilité ? Les entreprises pharmaceutiques ont besoin que le grand public prenne au sérieux les personnes qui leur prescrivent des médicaments psychotropes. Alors l'industrie soutient financièrement les institutions psychiatriques et les leaders d'opinion. Et l'industrie pharmaceutique pèse énormément sur les médias via la dépendance de ceux-ci aux recettes publicitaires de cette même industrie. Si l'industrie pharmaceutique est la raison la plus évidente pour laquelle la psychiatrie garde du pouvoir malgré une perte de crédibilité scientifique, ce n'est peut-être pas la raison la plus importante. La psychiatrie sert les besoins d'une structure de pouvoir plus générale. Et dans notre société, toujours plus fondée sur la peur, la psychiatrie répond à nos propres besoins accrus en coercition. Alors là, je fais une petite parenthèse. Est-ce que nous avons vraiment des besoins en coercition ou plutôt un sentiment d'insécurité? Ouais. Enfin, ça doit vouloir dire à peu près la même chose. Je continue. Répondre aux besoins de coercition de la structure de pouvoir. Les élites dirigeantes et les structures de pouvoir, des monarchies jusqu'aux dictatures militaires en passant par la corporatocratie états-unienne, ont régulièrement utilisé des professionnels pour empêcher la population de se rebeller contre les inégalités économiques et les injustices sociales de façon à maintenir le statu quo. Les structures de pouvoir reposent habituellement sur la police et le clergé, et aujourd'hui, aux États-Unis, les structures de pouvoir utilisent également les professionnels de la santé mentale. Les traitements médicamenteux et les traitements, entre guillemets, de modification comportementale, ont été utilisés pour plier la résistance à un statu quo déshumanisant, que ce soit dans la famille ou plus largement dans la société. Ce qui suit contient quelques exemples de comment la psychiatrie comme la psychologie ont répondu aux besoins de la structure de pouvoir en échange d'un statut et d'argent. Le projet MKUltra, avec un K, MKUltra, une partie de l'histoire états-unienne ressemble aux divagations d'un conspirationniste illuminé, mais sa véracité a finalement été confirmée des décennies plus tard par la commission Church du Congrès des États-Unis, reconnue par la Cour suprême des États-Unis et attestée dans The Search for the Manchurian Candidate. Manchurian Candidate. The CIA and Mind Control. The Secret History of the Behavioral Sciences, donc à la recherche du candidat manchourian, la CIA et le contrôle de la pensée, l'histoire secrète des sciences comportementales, de l'ancien fonctionnaire du département d'État, John Marks. Evan Cameron, président de l'Association américaine de psychiatrie en 1953, a recherché des moyens puissants pour détruire la résistance des patients et il a ainsi fait des expériences avec du LSD, mais aussi des électrochocs ou la privation sensorielle. La CIA, sous le nom de code de projet MKUltra, désirant en apprendre plus sur les méthodes de Cameron, le finança ainsi que d'autres psychiatres de renom dans les années 1950 et 1960 pour conduire des expériences de lavage de cerveau. Aide à l'interrogatoire torture. Peu après les événements tragiques du 11 septembre 2011, L'Association américaine de psychologie a fait d'énormes efforts pour entretenir des relations avec le département de défense des États-Unis, l'agence d'intelligence centrale, de renseignement, ainsi que d'autres agences gouvernementales, comme le rapport de Truthout en 2014, l'Association américaine de psychologie visait à positionner les chercheurs en psychologie et en sciences comportementales comme des personnages clés dans les activités d'antiterrorisme et de contre-espionnage aux États-Unis. L'AAP n'a pas seulement toléré, mais a même applaudi l'aide de psychologues dans l'interrogation torture à Guantanamo et ailleurs. Empêcher la résistance des soldats états-uniens, la résistance donc à l'obéissance. Des psychiatres et des psychologues ont empêché la résistance des soldats états-uniens en Irak et en Afghanistan, par des traitements médicamenteux et des manipulations comportementales. Selon le Navy Times, en 2010, un membre états-unien des services armés sur 6 prenait au moins un médicament psychotrope, dont beaucoup étaient dans des zones de combat. De nombreux étaient dans des zones de combat. Martin Seligman, un ancien président de l'Association américaine de psychologie, a été consultant pour le programme de psychologie positive de remise en forme de l'armée états-unienne. Seligman a obtenu non seulement une position et un rang social, mais aussi plusieurs millions de dollars pour son centre de psychologie positive de l'Université de Pennsylvanie, selon le Philadelphia Inquirer, qui cite Seligman déclarant « Nous cherchons à créer une armée invincible ». Pathologiser et médicaliser le non-conformisme. Les psychiatres comme les psychologues pathologisent et médicalisent le fait d'être anti-autoritaire et non-conformiste. Beaucoup des personnes recevant des diagnostics de maladie mentale sont essentiellement des anti-autoritaires et une large armée potentielle d'activistes anti-autoritaires sont éloignées des champs de bataille de la démocratie par des professionnels de santé mentale qui ont pathologisé et dépolitisé leurs souffrances. Ça fait penser un peu à ce terme en vogue actuellement, ce mot l'éco-anxiété, par exemple. Mais revenons à notre texte et un contexte états-unien. Répondre à nos besoins de coercition. Alors là, c'est le troisième point sur lequel on peut dire que la psychiatrie permet de conserver son pouvoir malgré sa perte de crédibilité scientifique. Tôt dans ma carrière, écrit l'auteur qui est, je le rappelle, Bruce Levin, donc un auteur états-unien. Tôt dans ma carrière et pendant 2 ans, j'ai travaillé comme thérapeute en chambre d'accueil d'urgence psychiatrique. J'ai observé un nombre incalculable de cas de policiers traînant des personnes agitées aux urgences. Elles étaient ensuite placées de force en hospitalisation sous contrainte. Certains policiers restaient aux urgences pour regarder, à la fois par admiration et envie, avec quelle rapidité une injection d'Aldol ou d'un autre antipsychotique pouvait calmer une personne. Toutes les sociétés, communautés et familles contraignent et contrôlent les membres qui leur font peur. Cependant, le type de comportement qui effraie les gens varie énormément et donc ce qu'il est permis de contraindre et de contrôler varie énormément. Ainsi, alors qu'il serait assez universel pour une société de contraindre et contrôler quelqu'un qui attaque physiquement d'autres de ses membres, il est tout à fait historiquement exceptionnel, comme c'est le cas dans la société états-unienne, d'utiliser des médicaments antipsychotiques pour soumettre un enfant de 7 ans qui s'ennuie et qui refuse les contrôles en classe. En décembre 2012, les Archives of General Psychiatry, rebaptisées JAMA Psychiatry ont rapporté que entre 1993 et 2009, il y a eu une multiplication par 7 de la prescription d'antipsychotiques aux enfants de 13 ans et moins, et que des états non psychotiques comme des troubles du comportement perturbateur étaient les diagnostics les plus courants chez les enfants à qui l'on prescrivait des antipsychotiques, comptant pour 63% des personnes sous médicaments. La croissance spectaculaire des médicaments antipsychotiques aux États-Unis est largement due à la perpétuelle augmentation de l'acceptation sociale de l'utilisation des médicaments pour contrôler les comportements indésirables. Les antipsychotiques rapportaient près de 18 milliards de dollars par an en 2011, et en 2013, un antipsychotique, l'Abilify, était le plus gros succès parmi tous les médicaments aux États-Unis, avec près de 6,5 milliards de dollars de ventes. En plus des enfants, en particulier les enfants adoptifs, l'essor du marché états-unien des antipsychotiques inclut les personnes âgées en maison de retraite et les détenus en prison, où les antipsychotiques sont une façon relativement bon marché de gérer ces populations. Dans un article de 2014, It's the coercion, stupid, c'est la coercition, idiot, David Cohen, dans la tradition de l'ouvrage de Michel Foucault, Histoire de la folie, actualise la façon dont le besoin social de la fonction de police extra-légale de la psychiatrie oblige la société à rester aveugle au manque complet de validité scientifique de la psychiatrie. Cohen note: l'appréciation par la société de la coercition psychiatrique déséquilibre doucement mais sûrement les règles du jeu. En raison de la coercition psychiatrique, la société donne à la psychiatrie un laissez-passer. Ces théories n'ont jamais besoin de réussir aucun test rigoureusement conçu, comme on l'attend d'autres théories scientifiques importantes. Elles n'ont besoin que d'être affirmées. Ainsi, la dénonciation continuelle par les journalistes du manque de scientificité et de la corruption de l'industrie pharmaceutique n'a pas eu d'impact pratiquement dans la réduction de l'influence de la psychiatrie. Des réformes conséquentes en santé mentale ne se feront pas sans que la société elle-même ne se réforme pour être moins craintive et avoir moins besoin de contrôle et de coercition. Par exemple, si la société pouvait comprendre l'idée qu'il y a de nombreux adolescents et adolescentes extrêmement intelligents qui ne sont pas scolaires et qui n'ont pas besoin d'une scolarité normale, mais d'une autre forme d'éducation pour réussir dans un tas de professions, et j'ajouterai d'activité, alors la rébellion adolescente contre la scolarisation normale ne serait pas aussi effrayante pour les parents. Et le besoin de coercition et de contrôle par des manipulations comportementales et des médicaments psychiatriques disparaîtrait. Cohen conclut: avouons-le, personne ne se soucie du fait que la recherche en psychiatrie des 50 dernières années ait échoué à faire la moindre découverte utile pour une psychiatrie clinique scientifique. Bien sûr, Cohen s'en soucie, comme tout véritable scientifique, mais il a raison. Aussi longtemps que la société aura besoin de la coercition extra-légale que la psychiatrie procure, elle aura besoin de rester dans le déni de l'illégitimité scientifique de la psychiatrie d'elle-même. Sans une baisse de la demande sociale de coercition, les abolitionnistes de la psychiatrie devraient se méfier du fait que si la psychiatrie perdait un jour son influence, une autre institution coercitive viendrait probablement combler le vide. Et voilà, c'était un article donc de Bruce Levin, le 6 janvier 2015, article trouvé sur le site Zinzinzine. Ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. Salut!